La mort.
La mort.
La mort.
La mort.
Les morts.
La mort.
La mort.
La mort.
Printemps mortel, la mort sur les ondes, du 18 avril au 21 juin. Le printemps mortel est organisé par le Centre social La Paz, la Maison de quartier des Ors, Radio Royan Vercors, Thanatosphère et les PEP.
On parle de la mort ce mois-ci, d'existence,
du deuil,
d'émotion,
de l'au-delà,
d'amour immense,
de soins palliatifs,
défunts ou défuntes,
en souffrance,
peur de la mort, tristesse,
rituel, sépulture,
à tous les morts,
violentes ou prématurées,
ramener la mort dans l'espace public.
Chaque semaine, une sélection spéciale de Radio Royan Vercors, 93 FM.
Pour accompagner et vivre le deuil.
Parler avec les morts.
Il y a plein de petites morts.
Comme une ombre parmi les vivants.
La seule certitude qu'on a dans la vie.
Finalement, la mort fait partie de la vie. La mort, on y est tous et toutes confrontés.
Grande communauté invisible, des personnes qui doivent vivre avec.
Des émissions inédites pour parler de choses sérieuses avec légèreté.
On peut aussi parler de la mort sans être glauque, sans être grave, sans être... Il n'y a pas que de la tristesse en fait.
Cette semaine, dans les rendez-vous mortels, nous vous proposons la réécoute de L'éclat des noctules, l'émission bénévole de Radio Royan Vercors, l'émission de mars 2025, l'émission de la mort qui tue.
Le patriarcat est une narration et elle a fait son temps.
Aujourd'hui, nous vivons encore les conséquences de l'esclavagisme et du colonialisme.
Sous la chape du silence,
nos cœurs vibrent et hurlent.
La vie palpite.
De l'air.
Pour faire notre chemin dans ce monde, nous avons besoin de force et de nuances.
Nous voulons partager ce qui nous tient.
Nous bouge.
Nous bouleverse. Nous traverse.
Prendre le temps de déployer nos audaces.
Pour se délecter ensemble
des singularités.
C'est pas du courage, c'est qu'à un moment donné, il faut y aller, quoi.
Et la poésie, ça casse les frontières. Et c'est cet espace pour l'imagination qui m'a permis d'accumuler de la force et de livrer mes batailles.
L'éclat des noctules, une émission féministe, radicale, tendre, joyeuse.
Sur Roi du Royan, 93 FM.
Bienvenue dans l'éclat des noctules. Je suis pas en studio aujourd'hui parce que je suis en vacances. Mais je vous passe bien le bonjour. Je passe le bonjour aussi à Céline, à Anaïs, à Chico et à Gaëlle qui est à la technique. C'est le printemps sur les ondes et on est bien contente de vous retrouver et de partager avec vous nos réflexions et nos discussions sur la mort. Pour en parler, on a chacune exploré un chemin, rencontré des personnes qui accompagnent vers la mort, qui parlent aux défunts et aux défuntes, on s'est confronté à nos deuils, on a poussé des coups de gueule contre la mort. On y allait de toutes parts. Comme d'habitude, il y aurait encore mille autres choses à dire que cette petite heure et demie avec vous nous permet. Alors ne soyez pas déçus, c'est une exploration partielle mais passionnante qu'on vous propose. Moi, je suis allée à un café mortel, dans un village de notre campagne. Je voulais voir à quoi ça ressemble un endroit où on parle des morts, de la mort, avec des personnes qu'on ne connaît pas. Et j'ai été bien accueillie par les bénévoles d'une asso qui propose plein de choses dans la Drôme, Thanatosphère. Elles ont posé un cadre bienveillant d'écoute et d'accueil de la parole des personnes qui participaient à ce café mortel, sans jugement, sans interruption, pour que chacune et chacun puisse déposer là ce qu'elle avait vécu. Une saison de printemps mortel s'ouvre dans le Royan, et vous allez en entendre parler sur les ondes de Radio Royan. Beaucoup d'événements seront proposés pour échanger sur la mort, et se la réapproprier peut-être. En attendant, et pour commencer, on va écouter un emprunt à nos camarades de micro-ondes de Radio Campus Grenoble, qu'on salue, et qui ont consacré une émission aux voix des frontières. Dans cette émission, il y a une captation d'une commémoration des morts aux frontières qui a eu lieu à Grenoble le 4 février 2025. On avait à cœur de vous faire écouter ces prises de parole de personnes qui luttent contre les frontières et leurs conséquences tragiques. Parce que dans le monde raciste dans lequel on vit, on n'accorde pas la même importance à tous les morts, et c'est révoltant. Écœurant. Alors écoutons comment les frontières tuent et rappelons-nous des personnes qui en ont été les victimes et surtout, luttons pour que ça n'arrive plus.
En tant qu'Alamfun, nous soutenons les personnes en détresse en mer le long des différentes routes migratoires maritimes. Dans le cadre de notre action, nous sommes les témoins directs de violentes conséquences du régime migratoire européen. Nous voyons comment les personnes sont forcées d'emprunter des itinéraires toujours plus longs et plus dangereux en raison de la surveillance croissante des frontières et des politiques conçues pour dissuader la migration. Nous voyons comment ces personnes sont obligées de rester invisibles et de se cacher des gardes-frontières, ce qui rend leur voyage encore plus risqué. Dans le même temps, certains des acteurs civils qui comblent le vide créé par le refus des États européens de secourir les personnes en détresse se sentent contraints de mettre fin à leurs activités en raison de la forte criminalisation à laquelle ils et elles sont confrontés. Il en résulte des naufrages encore plus meurtriers et un nombre croissant de personnes tuées ou disparues sur le chemin de l'Europe.
Tout au long du dernier mois de l'année 2024, de nombreux accidents mortels se sont produits le long de différentes routes, de l'Atlantique à la Méditerranée centrale, à la Méditerranée orientale. Et c'est avec une grande tristesse et une immense colère que nous énumérons les naufrages mortels dont nous avons connaissance. Des centaines de personnes ont perdu la vie au cours du seul mois de décembre, laissant des milliers de parents et d'amis dans un grand désespoir et une grande tristesse. Pire encore, nous savons qu'il ne s'agit là que de la partie émergée de l'iceberg. Alors que les personnes qui ont perdu la vie sont souvent représentées par des chiffres, nous nous souvenons d'elles en tant que personnes et individus, avec leur propre histoire, leur famille et leurs amis. Nous pleurons ces morts, des morts qui auraient pu être évitées. Les crimes frontaliers sont le résultat de politiques migratoires qui coûtent des milliards d'euros chaque année. Bien que ces politiques n'empêchent pas les gens de continuer à exercer leur droit à la mobilité, elles sont la cause d'innombrables morts. Nos pensées, notre solidarité vont aux amis, aux familles de celles et ceux qui ont perdu la vie, de celles et ceux qui sont portés disparus et de toutes celles et ceux qui sont toujours en migration, qui risquent l'emprisonnement, le travail forcé, la disparition forcée. Nous continuerons à lutter contre ces frontières meurtrières et pour la liberté de circulation et l'égalité des droits pour toutes et tous.
Le dernier mois meurtrier d'une année meurtrière. Au cours des derniers jours et des dernières semaines, de nombreux accidents mortels se sont produits le long des routes migratoires dans l'Atlantique et la Méditerranée. Alors que les citoyens et citoyennes d'Europe et d'ailleurs profitent des fêtes de fin d'année, les frontières de l'Europe continuent de tuer. Nous pleurons toutes celles et ceux qui ont perdu la vie et sommes solidaires de leurs proches.
My last cry. Mom, I have no gain.
Maman, j'ai tout perdu. J'ai traversé toute la forêt de la douleur. J'ai supporté le désert de sable et de sable brûlant. Mes amis qui dormaient si profondément que toute aide était inutile. Comment aurais-je pu trouver la joie quand les pleurs et le chagrin sont mes seuls bagages? Bruit des armes partout, vivre était un miracle. La personne que j'ai décidé d'être me conduisait à la disgrâce. Maman, ne pleure pas. Je ne pouvais pas vivre dans la honte. Ma vie a été en jeu. J'ai traversé les océans pour me transformer. Je quitte ce monde emprisonné par mes menottes. J'espérais seulement un miracle. Tout doucement, je perds mon souffle. J'espère que mon histoire sera racontée et touchera le plus de monde possible. Maman, j'ai tout perdu.
As articles, mother, I had no gain. Thank you.
Passport, camera, we are fatigued. Every day, day, police day. Hey, gendarme, visa, gendarme, now we'll be that. A couple of winya, lily, aquamulele. Mami, what are you alone? Don't stop. After my connection to media, no worry. I will marry you, no worry. After my connection to Malaga, no worry. I will marry you, no worry. When I chose Bomeka, I chose Omega. When I chose Omega.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans l'émission d'Éclat des Noctules de ce mois de mars. Merci à Jojo pour cette intro. Et j'enchaîne.
Mm-hmm.
Comme vous l'avez compris, on parle de la mort ce mois-ci. Et moi, pour cette émission sur la mort, j'ai choisi d'interviewer Talia, qui a été infirmière pendant une dizaine d'années dans une unité de soins palliatifs. J'ai réalisé cette interview par téléphone, ce qui donne un son un peu particulier, mais tout à fait audible. Et j'ai choisi de faire un montage avec une musique juive traditionnelle de Sonia Wider-Atherton pour piano et violon, ainsi que le Ravel Kaddish joué par Yehudi Menuhin en 1936 au violon. Toutes deux sont des musiques de Kaddish. Le Kaddish, c'est la prière que aussi que vous entendrez au milieu du montage et qui est également une lecture de Kaddish en hébreu selon le rite séfarad sur l'air de Yerushalayim Shel Zahav, qui est une musique qui me rappelle mon enfance et que j'aime bien. J'ai choisi ces deux versions du Kaddish parce que le Kaddish, c'est une prière importante dans la religion juive. C'est une ancienne prière écrite en araméen qui sert de louange à Dieu en temps de deuil. Étonnamment, il n'aborde pas la tragédie de la mort, mais plutôt l'émerveillement devant la grandeur de Dieu. Cette prière sert à accompagner l'âme d'une personne décédée dans son voyage à travers la majeure partie de la première année de l'au-delà. J'aurais aussi voulu vous parler du Dibouk, qui désigne dans la culture populaire juive un être invisible, un esprit si vous voulez, en fait l'esprit d'un mort empêché d'accéder au monde d'après, empêché en raison des conditions de sa mort, violentes ou prématurées. Un Dibouk, c'est un mort qui n'a pas eu son comptant de jours, parce que les juifs pensent que nos jours sont comptés et que notre mort est consignée dès le jour de notre naissance dans un livre que Dieu garde bien secret. Si les morts n'ont pas eu le temps d'honorer leur engagement avant de partir, leur disparition laisse une béance, un trou dans le tissu du monde, et les vivants doivent les réparer, sinon le mort laisse une situation en souffrance et ne peut pas passer dans Olam Abba, le monde à venir. Et il est condamné à errer comme une ombre parmi les vivants. Le Dibouk est coincé entre deux mondes d'existence, il n'est plus vivant mais il n'est pas encore mort, et il aspire à mourir enfin. Et pour alerter les vivants de sa détresse, il se glisse dans un corps, prend alors possession de son âme, souvent d'un proche, de la même famille, un descendant, et s'empare du corps afin de le contraindre à agir. Et durant la Shoah, tant de juifs ont disparu, leur corps, leurs biens, sans sépulture, sans kaddish, sans rituel, partis en fumée. On pourrait croire donc que les Dibouks ont dû se multiplier à ce moment-là, et il devrait exister autant de Dibouks que de descendants de victimes. Voilà donc ce montage avec ma sœur Talia sur les soins palliatifs. Et ben c'est aussi un hommage à toutes ces morts là. Voilà, on écoute.
En fait, l'unité de soins palliatifs, elle est dédiée à accueillir les situations les plus complexes des patients en fin de vie, et pas que en fin de vie d'ailleurs. Et en fait, tous les patients qui meurent à l'hôpital ne meurent pas dans une unité de soins palliatifs. Après, on est dans une société où la mort est quand même très souvent médicalisée, et la plupart des gens, hormis les accidents ou les morts naturelles à domicile, la plupart des gens meurent de maladie et meurent dans un contexte hospitalier. Et nous, notre unité, on avait 15 lits, enfin on a toujours d'ailleurs 15 lits de soins palliatifs au CHU, qui est le centre de référence sur toute la région Bourgogne-Franche-Comté. Et du coup, nous, on peut pas accueillir tous les gens qui vont mourir à l'hôpital. En fait, on accueillait les situations les plus complexes. Et quand je parle de situations les plus complexes, en fait, c'est des patients qui étaient complexes sur le plan médical, mais aussi sur le plan social, sur le plan psychique et sur le plan éthique. Et donc, c'est pour ça qu'on était sollicités, parce que les autres équipes des autres services du CHU ou des structures médicales extérieures au CHU étaient en difficulté, en fait. Nous, en fait, on était une équipe avec une dotation supérieure aux autres services en termes de quota soignants-patients, c'est-à-dire qu'on était, c'est toujours le cas d'ailleurs, une infirmière pour 5 patients. C'est les chiffres de nationaux qui sont comme ça, normalement, dans le monde le plus idéal. Donc c'est une infirmière pour 5 patients, enfin c'est un binôme infirmière et de soignante pour 5 patients. Donc c'est un quota supérieur aux autres services de soins. J'y ai trouvé ce que je cherchais, c'est-à-dire un service très technique au niveau des soins. Donc ce que les gens se rendent pas compte, c'est qu'en fait les soins palliatifs, c'est pas juste attendre que les gens meurent, hein, sinon ce serait trop facile. Du coup, c'est assez médicalisé, mais parce que les situations sont tellement difficiles qu'elles nécessitent beaucoup de médicalisation. Donc on avait beaucoup de soins techniques et en même temps une grosse partie d'accompagnement psychologique et humain en fait des patients et de leur famille aussi. Donc pour moi, j'ai trouvé un équilibre équilibre qui convenait tout à fait à ma pratique, à la pratique de mon métier en tout cas. Pour que les gens puissent se rendre compte un petit peu, dans notre unité, on avait en moyenne entre 25 et 30 décès par mois. Donc c'est à peu près un par jour, des fois un peu moins, des fois un peu plus. Donc c'est quand même plus que quotidien en fait. Les patients qui y sont accueillis sont des patients, alors, soit en toute fin de vie et vraiment on assiste aux quelques derniers jours de leur vie, soit des patients qui sont atteints de maladies incurables et qu'on va accompagner dans les derniers moments, mais aussi dans les derniers mois de leur maladie en fait. Et du coup pour nous le rapport à la mort c'était notre quotidien. Et je dirais que contrairement à ce qu'on peut penser, c'est un service qui est assez joyeux. Enfin nous en tout cas en équipe, on était alors c'est une équipe très soudée, on était très nombreux hein, en fait en soignants, et vu qu'on était tous animés par les mêmes volontés d'accompagner les patients au mieux et qu'on essayait de travailler le mieux possible dans cet objectif-là, je dirais qu'on avait une équipe assez soudée, peut-être plus que dans d'autres services parce que c'était quand même très difficile ce qu'on vivait au quotidien. Et plus les situations étaient difficiles dans ce qu'on vivait, parce qu'on avait quand même des situations vraiment très complexes et très compliquées, plus on était soudés et plus on rigolait, j'ai envie de dire. C'est un peu paradoxal, mais c'était une équipe assez joyeuse. Et même les patients nous le disaient en nous disant, ben, je pensais que ça allait être hyper lugubre et hyper glauque. Et finalement, en fait, on était plutôt... on avait plutôt envie de rire, envie de faire les blagues avec certains patients quand c'était possible. Donc voilà, on était quand même soudés et on essayait d'être un peu léger dans nos temps d'échange en équipe. Même si, ça je te parle de temps un peu, on va dire, en off, mais on avait aussi beaucoup de temps de travail en équipe avec des procédures collégiales, des temps de transmission, des groupes de parole aussi avec la psychologue, ce qui faisait qu'on avait quand même pas mal de temps, c'était assez favorable pour qu'on puisse échanger sur ce qu'on vivait au quotidien avec les patients. Donc quand on était en difficulté, parce que c'était souvent le cas, hein, vu ce qu'on vivait au quotidien, on avait quand même de quoi déposer et du coup ça a vraiment favorisé nos échanges. Donc non, c'était pas du tout tabou entre nous de parler de la mort. On était un service où c'était communément admis de faire des blagues peut-être un peu qui pourraient choquer le commun des mortels, mais qui pour nous était une façon aussi de décompresser. Donc on essayait d'être un peu léger dans notre rapport à la mort. Sinon en fait tu peux pas tenir au quotidien en accompagnant des décès tous les jours quoi. C'est pas possible de ne pas être affecté parce qu'on n'est pas des robots et que de toute façon tu peux pas mettre je ne pense pas que tu puisses mettre à distance ce que tu ressens au quotidien et évidemment que même après encore 10 ans de quasiment 10 ans de soins palliatifs, j'étais encore touchée par certaines situations et ça m'est arrivé de pleurer dans le service, alors pas au quotidien heureusement. Après on a quand même une façon, on avait déjà du temps dédié au fait de poser des choses, de déposer des choses dans le service. On était aidé quand même beaucoup par la psychologue du service, ça faisait beaucoup et on a la chance et c'est très spécifique à notre unité, contrairement à tous les autres services de l'hôpital qui en auraient bien besoin évidemment. Nous on avait un temps dédié spécifique à l'équipe avec un temps de... Moi quand je suis arrivée dans le service, il y avait deux staffs par semaine et un groupe de parole. Finalement après ça s'est réduit à un staff, donc staff c'était pour un temps de réflexion en équipe sur des situations d'un patient par exemple qui posait problème à l'équipe et mais on avait aussi un temps de parole dédié avec une psychologue qui avait 50% rien que pour nous et ça c'est pour moi essentiel dans l'exercice de nos fonctions. Alors au niveau de parler de la mort avec les patients, il faut se dire que souvent les patients étaient pas forcément au courant qu'ils arrivaient dans une unité de soins palliatifs parce que les médecins, notamment les oncologues, en fait il y a je sais pas entre 80 et 90% des patients accueillis dans l'unité c'était des patients atteints de cancer, donc cancer incurable en bout de course de ressources thérapeutiques et qui sont plus en traitement curatif ou alors qu'ils le sont encore mais on sait que on sait que c'est plutôt mal engagé, on va dire, en termes de pronostic vital. Ce qui m'a toujours surprise, c'est qu'il y a des patients qui sont atteints de cancer depuis plusieurs années, par exemple, mais qui n'ont jamais parlé de la mort, en fait, alors que je pense que dans l'imaginaire du commun des mortels, quand on parle de, quand on t'annonce un diagnostic comme ça, la mort est associée au diagnostic, en fait. Sauf qu'en fait, quand ils sont en phase curative de leur maladie, les médecins ont parfois du mal à aborder les choses. Alors ça tend à évoluer aussi, hein, mais et donc il y avait certains patients qui savaient même pas qu'ils arrivaient dans l'unité de soins palliatifs et ils savaient même pas ce que ça voulait dire soins palliatifs, quoi. Et les patients qui le savaient, ben pour eux c'est un peu un gros mot, hein, quand même, les soins palliatifs. Ils disaient, ils évoquaient souvent leur tristesse et leurs angoisses. Alors l'angoisse c'était le symptôme numéro un avec la douleur, on va dire, ex aequo. Donc oui, les patients, on peut pas, j'en connais quand même pas beaucoup vu arriver serein en allant vers les derniers jours de leur vie. Après, on était là pour les écouter. Quand à l'arrivée des patients dans le service, en fait, il y a un entretien assez complet avec les médecins, puis avec nous aussi les paramédicaux. Et en fait, on reprend un peu les étapes de la maladie du patient. Et généralement, c'est à ce moment-là qu'on parle quand même de la mort. Et il y a certains patients. Selon les patients, il y en a qui arrivent à parler plus facilement, plus aisément de la mort, mais c'est toujours assez émotionnellement chargé de toute façon. Ils sont jamais, j'en connais peu qui sont arrivés sereins en disant je sais que je vais mourir et tout va bien, quoi. Ce que j'ai beaucoup aimé pendant mes années dans ce service, c'est que j'ai envie de dire presque 50% de mon temps de travail était dédié à la prise en charge des familles. Parce que c'est un service où il n'y a pas d'heure de visite. Donc nous, on accueillait des familles jour et nuit. On invitait les familles qui le souhaitaient à pouvoir dormir avec leurs proches à l'hôpital, dans la mesure du possible. Et puis, les familles pouvaient être présentes H24 auprès de leurs proches, en fait. Donc nous, on était dans nos soins, on était en contact avec les proches des patients quasiment tout le temps. Donc il y avait beaucoup de temps de parole avec les familles. Alors des fois ça se passait très bien, des fois ça se passait moins bien parce que les familles ont besoin d'exprimer aussi leur colère vis-à-vis de l'incurabilité de la maladie, vis-à-vis du parcours de soins, souvent ils en veulent un peu à la terre entière quand même. Tout est entendable, hein, dans ce genre de situation. Donc mais on passait beaucoup de temps à expliquer les symptômes, à réexpliquer les symptômes. Les médicaments, les thérapeutiques, tout ce qui était mis en place pour les patients, quoi.
T'as des exemples de gens qui, je sais pas, avaient des croyances, je parle de la foi, mais ça peut être n'importe quelle autre croyance.
Oui, de la spiritualité, quoi.
Oui, c'est ça. Comment ça s'invitait, la spiritualité, là-dedans?
Bah, en fait, c'était quand même souvent en filigrane dans l'approche de la mort. Il y avait quand même beaucoup ces questions-là. On avait des patients de confessions très différentes et on pouvait avoir des patients croyants, donc pour qui c'était important. On avait la possibilité de faire venir les représentants des cultes dans le service. Ça nous arrivait de faire venir un imam. L'aumônerie était joignable très souvent, donc il venait très souvent dans le service. On a même eu des sœurs, hein, ou des prêtres en fin de vie. Donc ça nous arrivait aussi. C'est d'ailleurs pas les plus sereins, hein, parce qu'on pourrait croire, mais finalement, moi, j'ai pour avoir accompagné quelques sœurs religieuses, du coup, en fin de vie, c'était pas des modèles de zénitude, j'ai envie de dire.
Alors la croyance en Dieu, ça protège pas de l'angoisse?
Ah non, pas du tout.
Ah zut, je croyais.
Bah non. Après, c'est pas parce que c'est pas parce que t'es angoissé que tu vas mal vivre ta fin de vie. Mais je veux dire, les patients qui ont une vie spirituelle riche ou religieuse, en tout cas, c'est pas proportionnel à l'angoisse qu'ils ont en fin de vie, parce qu'en fait, on est tous inégaux face à ça. Et même les patients qui avaient une vie riche spirituellement pouvaient être empreints d'angoisse, quoi. Donc ça, c'est pour le coup, ça, je l'ai vraiment observé. Mais en fait, vu que tout était adapté et tout était individualisé, ça faisait partie prenante de la prise en charge, en fait, quoi. Donc,
de savoir ce que la personne voulait pas, aimait pas, tout ça, quoi.
Exactement. Et comme pour la nourriture, comme pour accueillir la famille ou pas, ou en fait, il n'y a pas de jugement. Donc, mais en même temps, c'est ce qu'on apprend à l'école d'infirmière, en fait, hein, à avoir une prise en charge individualisée et la plus respectueuse des croyances de chacun.
يتجدل ويتكادش شمي رابا بعلم ذي براخنوته וימליך מלכות ויצמח פורקני וקרב אשיח בחיי חול ויומי חול ובחיי דחול בית ישראל מעלה ובזמן קרים ואימנו אמן.
On pourrait devenir complètement hypochondriaque parce que des fois on le fait un peu parce qu'on a l'impression, vu qu'on baigne là-dedans et que tous les gens qu'on accueille ont un cancer, ça veut dire que dès que j'ai mal à la tête, c'est forcément une tumeur cérébrale. Mmh. On essaie de lutter un peu contre ça, donc on en parlait beaucoup entre collègues de ça. Et en même temps, moi je trouve que ça m'a fait vachement relativiser tout en fait.
La vie, du coup.
La vie, les choses graves. Alors après, je te dis ça. Enfin, c'est pas une vérité absolue dans ton quotidien. Tu peux pas relativiser et être branché que rien n'est grave à part la mort, quoi. Mais quand même, il y a un peu ça qui s'emprunt. Et on se disait souvent entre collègues que de vivre comme ça au quotidien avec des patients en fin de vie, oui, ça nous fait quand même relativiser. Et puis d'avoir cette hyper conscience de notre du fait qu'on est vulnérable et éphémère sur cette terre, oui, ça joue quand même sur notre quotidien avec nos proches, par exemple. On disait tous la même chose, tu sors pas de cette unité en tant que soignant comme tu y es entré, quoi. Ce que je trouvais assez extraordinaire, c'était d'avoir des moments. Parce qu'en fait, il faut se dire que les gens qui sont en fin de vie, il y a une espèce d'urgence à vivre des choses avec leurs proches. Et je me souviens qu'on faisait tout, mais vraiment on se pliait en 15 pour qu'ils puissent pouvoir accéder à certaines demandes. Et j'avais une certaine, en tant que soignant, je trouve ça très satisfaisant en fait de pouvoir répondre. Je me souviens, enfin, j'ai plein d'anecdotes comme ça, mais je me souviens d'une jeune patiente qui voulait avoir son chat avec elle. Donc le week-end, en fait, on demandait à sa compagne d'amener le chat et elle passait le week-end avec son chat dans la chambre, alors que bien sûr c'est interdit à l'hôpital, mais nous on le faisait par exemple. Ou je me souviens d'un patient qui voulait revoir son chien une dernière fois et le patient était grabataire, alité, et on pouvait clairement pas le lever, mais on l'avait descendu, on l'avait sorti de l'hôpital en lit par les sous-sols. Alors bien sûr, on faisait toujours ça le dimanche ou le samedi, comme ça il y a personne, de la direction, tout ça, et pour qu'il puisse voir son chien sur le parking de l'hôpital, par exemple. C'est un service, on accueille des patients de tous les âges, hein. On avait même des enfants, mais c'était pas la majorité, heureusement, mais la plupart des gens sont des gens qui ont plutôt, je sais pas, entre la moyenne d'âge, elle doit être autour des 60 ans, peut-être 50-60 ans, donc des patients plutôt jeune, hein. On avait des personnes âgées aussi, mais c'était pas la majorité, loin de là. Et je me souviens d'une dame qui allait être grand-mère pour la première fois, et en fait elle savait qu'elle allait mourir avant la naissance de son premier petit enfant. Et en fait on avait réussi à faire descendre une sage-femme, enfin monter une sage-femme avec un échographe, et sa fille enceinte était venue dans la chambre et elle avait fait une échographie pour la patiente pour qu'elle voie son petit enfant avant de mourir, quoi.
Dans la chambre, quoi.
Dans la chambre, ouais.
Oh là là,
donc voilà, ouais. On a fait des mariages, on a fait plusieurs mariages parce qu'en fait il y avait quand même beaucoup de gens qui se mariaient dans le service en fait pour un peu régulariser les choses par rapport aux enfants, tout ça. Donc voilà. Enfin je me souviens même d'une une patiente, son fils venait d'avoir son premier enfant, et en fait, elle allait jamais voir le bébé, en fait, et vu que nous, on était juste en dessous, notre service était au-dessus de la maternité, donc, la patiente était, enfin, la belle-fille de la patiente était montée avec le nouveau-né dans le lit, et on les avait fait se rencontrer sur le palier du service, parce qu'on n'allait pas rentrer le nouveau-né dans le service de soins palliatifs, hein, donc voilà, devant les ascenseurs, ils avaient pu se voir, elle avait pu voir le petit bébé avant de partir, voilà. C'était des trucs comme ça, et ça, c'est, en tant que soignant, c'est hyper, c'est plutôt gratifiant en fait, hein, et
c'est beau,
c'est des choses, ouais. Donc ça, c'est assez exceptionnel de vivre ce genre de choses dans le service, et c'est pour ça qu'on y reste longtemps. Enfin, moi j'y suis restée longtemps, c'est parce que on est un peu dopé à ces moments assez, parce qu'au milieu de tous ces moments là il y a des moments hyper durs, mais vu qu'il y a ces beaux moments, on tient. Non, Non, bah après on faisait vraiment le maximum. On a fait des visios avec des pays étrangers. On a fait après il y a des patients qui disaient ben moi j'aimerais revoir la mère, et ben on disait ben ça va pas être possible. Techniquement c'est pas possible quoi, mais dès que c'était possible on le faisait autant qu'on pouvait en tout cas. Mais en fait les gens ils ont pas forcément de demandes extravagantes parce que à partir du moment où on prenait du temps pour essayer d'apaiser déjà leurs symptômes, leurs angoisses, et que les familles étaient reçues et que les choses étaient expliquées, et que en fait il y a pas besoin de hormis cas exceptionnels, en fait, il n'y avait pas de demande extravagante. En fait, les gens, ils veulent juste être en paix, hein, et soulagés, ne plus avoir mal, et voilà. Mais en fait, nous, enfin, en tout cas, de ce que j'ai pu observer dans ma pratique, c'est que tous les gens qui sont arrivés dans le service en demandant à mourir plus vite, ne le demandaient plus à mourir quand ils étaient soulagés, finalement. Donc, la plupart du temps, les demandes, alors, sauf certains cas, parce que c'était le cas quand même, les patients arrivaient en revendiquant un droit à mourir, que c'était leur volonté, qu'ils voulaient pas vivre le temps de l'agonie parce que c'était trop dur à vivre, mais c'est surtout parce qu'ils étaient douloureux et pas soulagés. Et en fait, quand tu mets en place des... parce qu'on a quand même un arsenal de thérapeutiques qui est très varié et très adaptable selon les patients, et ben en fait la plupart du temps la demande d'accélération n'était plus d'actualité quoi.
C'était difficile dans ton quotidien de parler de ce que tu vivais dans ce service, par exemple ?
Ah ben, j'en ai jamais parlé, en fait. Hein. En fait, je parlais beaucoup de mon travail avec mes collègues. D'ailleurs, c'était devenu des amis. Hein. C'est toujours des amis, d'ailleurs. Mais en fait, les gens qui sont pas de ce milieu-là et, on va dire, lambda et travaillent dans d'autres structures et tout ça, les gens veulent pas parler de ça, en fait. Parce que dès que tu parles de soins palliatifs ou de mort ou de cancer ou de maladie, on te dit, ouais, c'est glauque, c'est triste, alors que c'est pas spécialement triste, d'ailleurs.
Alors que ça fait partie de la vie, quoi.
Alors que ça fait partie de la vie, et les gens, ils ont quand même une bonne tendance à vouloir mettre ça très très loin d'eux. C'est vrai que moi, je suis toujours surprise de... On m'a toujours dit, et d'ailleurs, tout le monde trouve que c'est glauque de parler ces genres de trucs autour d'une table chez des amis. Tu dis que tu travailles en soins palliatifs, ça fout un froid, et après, on change de sujet, parce qu'en fait, personne ne... Moi, j'ai vraiment vécu ça X fois, et même en famille. Hein. En famille, j'en ai jamais trop parlé. Mais c'est aussi une volonté de mettre ça un peu à distance dans les temps... Enfin, j'avais plein de choses à en dire, mais... Les gens n'ont pas spécialement envie d'entendre parler de la mort. Hein. C'est quand même, ça reste tabou, oui, je pense.
Épuisé, vole, tu l'as pas volé.
parle de la mort, donc, en ce lundi matin ensoleillé du début du mois de mars. Et on est bien contente de vous retrouver. On a une invitée spéciale qu'on n'a pas nommée en studio qui s'appelle Luz, qui fait une petite transition pas mal avec la chanson de Céline qu'on vient d'entendre. Et alors moi, pour préparer l'émission, je suis allée enregistrer un texte en forêt que j'ai écrit un soir d'émotion suite à la mort de Gigi Bou. Gib, c'était mon chien, le J, un grand chien noir. Quand on était assis tous les deux, sa tête dépassait un peu la mienne, je crois. On pesait pareil. J'aime bien le dire. Avant, je passais plus ou moins une dizaine d'heures par semaine dans la forêt. Avant, je devais souvent choisir entre être avec lui ou avec d'autres. Parce qu'il y avait beaucoup de situations qui n'étaient pas gibo-compatibles, comme on disait. Il est mort brutalement 2 semaines après sa meilleure amie, Monkey. Il n'avait pas beaucoup d'amis. En fait, si, il avait beaucoup d'amis, mais sa façon d'être était complexe et il y avait un risque planant. Il avait une présence, un état d'attention particulier du fait de son atypie. Un truc puissant, tendre, noble et inadapté. On a reçu des messages d'amour immenses quand il est mort. Je ne raconterai pas ici l'épopée quand il s'agit de vivre avec un être aimé potentiellement dangereux, dont on a l'entière responsabilité et dont la vie n'est pas considérée à l'égal des humains, d'autant que les vies humaines ne sont pas considérées égales entre elles. Et j'ai vécu d'autres morts, mais j'ai le sentiment que celle-ci, elle m'a fait entrer dans la grande communauté invisible des personnes qui doivent vivre avec, de celles qui restent. Et c'est curieux, mais c'était le titre de ma première chanson enregistrée pour mes potes à la mort d'un des leurs, pour ceux qui restent, il y a 17 ans. Le texte qu'on va entendre, donc, que je vous emmène en promenade, date de début janvier 2025. Je suis sur un chemin que j'ai appelé la maison d'éthique. C'est un chemin où j'allais souvent avec Jib parce que il y avait vraiment jamais personne. Je crois que c'est le seul endroit où j'ai jamais croisé personne. C'est un chemin qui est au-dessus du Léoncel. Sur ce chemin, j'avais enterré dans une sorte de grotte une chauve-souris et un serpent que j'avais trouvé mort à un jour d'intervalle. C'était bizarre d'ailleurs d'avoir trouvé deux animaux un peu particulier comme ça aussi rapidement. Oh waouh, et là il y a 2 chevreuils au bout du chemin. Ils ont un pelage très sombre. Je suis contente parce qu'avec Jib j'avais appris à repérer les chamois dans la falaise. Ils sont repartis. Ça m'arrive comme ça des fois d'aller faire des petits rituels. J'amène des trucs que j'aime, que je laisse par terre. Je suis inconsolable de ta mort. Je te pleure. et te pleure encore. Je me dis des milliards de trucs. Ça va trop vite dans ma tête. Trop vite pour les dire ou les écrire. Donc je pense, je te parle, je pense, je te parle, je parle à Monkey, je te parle, je pense, dans ma tête. Pendant que mon cœur est lessivé comme un linge qu'on essore, que mon sternum se contracte, que les larmes jaillissent, je te sens poser ta tête sur ma cuisse, puis t'asseoir et poser ta tête contre mon cœur comme tu faisais. Je vois tes yeux arrondis. J'en râle de pas pouvoir tout traduire instantanément, que tout ce qui me traverse ne puisse pas se dérouler là devant moi, sur un parchemin magique. Alors qu'on s'en fout que tout ça existe. Le monde s'en contrefout, quoi. Pourquoi je veux que quelque chose se passe ailleurs? C'est tellement intense en dedans que j'ai peut-être besoin d'un écho, d'une continuité. En rapport avec ta mort, qui me dévaste. Le monde est pourtant bien assez dévasté comme ça. Rien n'y fait. J'ai beau pleurer et pleurer encore, la situation douloureuse, ne change pas. Ma relation avec cette situation douloureuse ne change pas. Tu es toujours mort et jamais je ne te retrouverai. Cet abîme est suffocant. Ah si, parmi les 50 000 révélations que j'ai eues, je me suis dit un truc utile. Aimer, t'as toujours besoin de faire passer quelqu'un en priorité. J'arrive pas à me faire passer en priorité. Les situations font danser les rôles et les jeux de l'attention, mais moi, non. Je résiste à la responsabilité de ma propre vie comme fin en soi. Je préfère faire passer l'existence d'une autre personne avant la mienne. Beaucoup plus facile et insupportable. Bon là, j'ai coupé le texte. C'est le passage où je deviens méchante avec moi-même. Donc, à force d'écrire des chansons, j'ai cette sale habitude de me relire du début dès que j'ai une pause du flux d'écriture. Ça marche assez bien pour les chansons, mais pour écrire autre chose, c'est vraiment un réflexe de merde. Ça te sort de ton instant pour refaire le fil au lieu de le laisser dérouler. C'est qu'une chanson, c'est concis. Et là, on s'en fout, quoi. Au contraire. Jib, j'en reviens pas que tu sois plus là. Tu sais ça? Je trouve pas ça possible. C'est au-dessus de mes capacités. C'est inconceptuel. Et pourtant implacable. J'ai un nouvel appart où il n'y a pas ta place, que j'ai réfléchi avant tout et autour de laquelle j'ai installé tout le reste. Toute l'énergie que je dépense pas à être attentive à la moindre stimulation qui t'active, je l'ai passée un peu dans la déco de chez moi. C'est classe. Mais bon. Tu m'as tenue debout pendant 10 ans. Et maintenant, j'ai l'impression de m'écrouler. Tout en ayant la possibilité nouvelle de me déployer. C'est pas le truc le plus dur que j'ai vécu, mais les autres, t'étais là pour le traverser avec moi. Ou bien j'étais trop jeune pour en prendre la mesure. Et de toute façon, il n'y a pas de balance pour peser les souffrances. C'est fou comme j'aurais tout fait pour toi. J'étais prête à tout, tu te souviens? Quand je t'ai promis que je resterais avec toi, quoi qu'il en coûte. J'étais prête à vivre dans la voiture, partir je sais pas où. Quand des gens te voulaient du mal et que je savais plus comment faire pour pas qu'on se fasse remarquer. Et pour plus que tu fasses de bêtises. Il y a beaucoup d'élébores. C'est les seules fleurs pour l'instant. Il y a eu ce moment où je savais plus où aller. Finalement, on avait trouvé. C'était toi ma priorité. Et la meilleure priorité qu'on puisse espérer. C'est sûr, moi aussi j'en ai fait des conneries. Mais c'était vraiment toi ma priorité. Et j'ai aimé ça. De tout moi-même et plus encore. J'ai poussé des explorations, des marches la nuit, des renoncements, des solitudes, des replis, des déploiements invisibles, des simplicités.
c'était toi la priorité et c'était bien comme ça. Même si c'était raide des fois, que j'ai craqué. Même notre dernier été ensemble, j'ai craqué. Faut dire que c'était ambitieux et un peu fou quand même, cette aventure. J'étais heureuse avec toi. Ça me rendait heureuse d'être moins concernée par le monde des humains. Je sais pas pourquoi je me suis mise à arrêter de fumer. Je suis dans la merde maintenant. Putain de clope de merde. C'est vrai mon âge. Et tellement satisfaisant. Je crois que c'est ça. C'est satisfaisant d'être actrice de cette métaphore. Tout part en fumée. J'avais des vieux trucs indiens avec un goût bizarre. Je vais voir si je les retrouve. L'occasion mérite bien une combustion. J'ai pas trouvé ce que je cherchais, mais d'autres trucs. Notamment une boîte d'embout que j'ai cherchée frénétiquement plusieurs fois. Pas de chance, en désespoir de cause, j'en avais racheté une en début de semaine. Là. Ça m'a fait quand même une petite satisfaction de la retrouver. J'ai aussi trouvé du CBD à fumer. Donc je fume, comme si c'était normal. Comme si c'était même pas une occasion. Comme j'avais toujours fumé quoi finalement. C'est con mais ça me fait quelque chose de fumer. Comme si je m'extirpais, que ça me faisait changer de narration. Comme si je devenais omnisciente. Je suis toute seule sans toi. Je trouve ça absurde. Mon existence est absurde sans la tienne. Si. Si, je te jure. Mon existence sans la tienne, c'est nul. Je veux pas jouer à ça. Je préférais jouer à mon existence avec toi. C'est comme une mauvaise blague. Mais pas une mauvaise blague qui est mauvaise parce qu'on raconte mal les blagues, mais qu'on a quand même envie de rire et que les gens qui sont là et qui nous voient avoir envie de rire par empathie, et elles aussi ont envie de rire, non? Non, tu vois, une mauvaise blague, genre les gens qui racontent une blague qui en est pas une, quoi. Tu vois? Ben ça fait ça. Ça embarque pas. Ça laisse sur le carreau. Ça fait un petit sentiment d'injustice et de... Bah, non en fait, c'est trop facile. De pas avoir à sortir ce soir dans le moins 5 et sous la lune à minuit passé, quand tout est silencieux. Et de guetter le moindre furtif d'un être qui marche. Que le premier truc, l'impératif de ma journée, ce soit pas de me casser viteuf dans l'endroit le plus proche et déserté possible. Que le premier truc, ce soit ma survie. Ma survie. Dans ce monde de niqué. Super. Qu'est-ce que tu veux faire, sérieux? C'est la dernière page de mon cahier. C'est bien d'avoir emmené le zoom avec moi pour revenir ici parce que sinon c'est trop émotionnel. Ça me met dans un état... Ouais, voilà, trop triste. Et en fait, là, c'est comme si j'emmenais quelqu'un avec moi pour lui faire visiter. Et j'aime bien. La cascade.
Pero nos saca de quicio cuando sentimos su paso, cuando tira su zarpazo sobre la gente que amamos, a pesar de que entendamos, la muerte es un chingadazo. Aunque la pinten pintores, aunque la piensen sonriente, aunque nos pele los dientes y la canten los cantores, por más que tantos doctores nos digan que es llevadera, aun siendo tan verdadera, ineludible y normal, la muerte siempre fatal es una gran chingadera. Hay que seguir por la vida con nuestros muertos a cuestas, aunque lleno de protestas, donde el alma malherida dar al cuerpo lo que pida, cantar con la voz gastada, alimentar la mirada, vivir el aquí y ahora. Ya nos llegará la hora de irnos mucho a la chingada.
Se vive para morir, se muere por dar la vida. La muerte es llanto y dolor, es consuelo y es salida.
Vive para morir y mientras vivo, señores, no me canso de cantar mis gozos y mis dolores.
Se vive para morir, se muere por dar la vida. La muerte es llanto y dolor, es consuelo y es salida.
Se vive para morir, pero hay que vivir gozando. Hay muertos llenos de vida y vivos que van penando.
Se vive para morir, se muere por dar la vida. La muerte es llanto y dolor, es consuelo y es salida.
Solo canto mi verdad, la canto con sentimiento. Sé que no camino sola, conmigo cantan mis muertos.
On est toujours sur Radio Royan, 93 FM, et c'était Astrid Haddad, qui est une chanteuse mexicaine, surtout connue pour ses performances de cabaret politique irrévérencieuse, et puis elle a fait tout un album sur la mort.
Oui, le morceau s'appelait Decimas a la muerte. Et ce que vous allez entendre maintenant, c'est une discussion que j'ai eue avec une amie sur ces questions de la mort, et donc on tirait des petits mots et qu'on avait écrits comme ça et on partageait un peu ce à quoi ça nous faisait penser. C'est un extrait de cette discussion-là qui sera diffusé plus complet à l'occasion du Printemps de la Mort. Mais voilà, là, ça, c'est un petit bout à propos de cette grande mystérieuse qui est la seule certitude qu'on a dans la vie. Et voilà, bonne écoute.
J'aime bien quand on garde des sommets enneigés comme ça en parlant. Je trouve ça dingue.
Oui, on est devant une fenêtre où on voit toutes les montagnes tout enneigées avec un gros ciel bleu. Ouais.
Ah ! Moi aussi je l'avais réécrit.
Le néon de l'hôpital.
El famoso.
El famoso. Bzz, bzz, bzz. Bzz, bzz. Tic, 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 tic. Ça, c'est quand il s'allume. Ouais. Je te transmettais la dernière fois d'une image assez forte de moi qui tapait sur la fenêtre de la chambre. Comment ça s'appelle cette chambre?
Stérile.
Ouais, tout à fait. La chambre stérile. Où ma mère était couchée dans le lit et je tapais pour qu'elle me regarde. Je me souviens pas si elle tournait la tête ou si elle tournait pas la tête. Et là, je me souviens très très fortement, très précisément de ma main qui tapait. Et là, il y a une forme de détresse assez importante. Et je crois que c'est accompagné du son du néon, de la lumière du néon. Je ne sais pas ce qui se passe autour du néon, mais... Et voilà, et ça m'est revenu la dernière fois où je suis allée à l'hôpital et que je me suis réveillée d'une anesthésie générale et je me suis réveillée, la première image qui revenait du réveil, c'était cette image-là que j'avais oubliée. Celui de l'appel d'une enfant pour que sa mère la regarde, parce qu'on ne pouvait pas rentrer dans la chambre stérile. Enfin, là, dans mon corps, j'ai l'impression qu'avec cette image-là, je me rappelle que je comprenais que j'avais pas bah, qu'elle était en train de partir, quoi. Qu'elle serait plus là.
Ah ouais?
Ouais.
C'était beaucoup de temps avant sa mort?
J'ai aucune idée. À 6 ans... Essayez de vous souvenir de qu'est-ce que vous vous souvenez à 6 ans.
Ouais.
Alors voilà, c'est peut-être une image reconstruite, c'est peut-être une image qui a existé. Au fond, ça m'intéresse peu. Ce qui m'intéresse, c'est juste de me dire, tiens, je passe à l'hôpital, c'était traumatique pour moi, je me réveille, et pas cette image-là.
Comme si c'était le condensé de ce que ça réveillait, de qu'est-ce qui était inscrit pour toi dans ton corps en lien avec l'hôpital, dans cet environnement, quoi.
Ouais. Peut-être aussi un stress beaucoup, enfin un stress très 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 important avant l'opération, et que du coup après c'est comme si je me suis dit mais oui, enfin comme si je me réconciliais avec moi en disant mais oui, en fait il y a il y a ce trauma-là, en fait. Alors, et je crois que je remercie cette image d'être apparue, cette espèce d'urgence d'appeler sa mère, en espérant qu'elle vienne, que son corps y parle, qu'elle se retourne vers moi, qu'on puisse se toucher. Et souvent, je me dis que ma peur de l'enfermement, elle vient peut-être aussi de là. Tu vois, le fait que cette vitre, elle permette pas de liberté. Pour moi, l'hôpital, il a quelque chose de l'ordre de l'enfermement. Ouais, il est lié à la peur que j'ai de l'enfermement. En général.
Ça me fait penser à une chanson. Mais je sais pas si elle existe. Vivre à en mourir.
C'est peut-être une parole de chanson.
Ça fait mourir de vivre.
Je me souviens rejoindre mon amie d'enfance. En haut de notre chemin pour aller au bus, quoi, pour aller au collège. Et là, je savais que philosophiquement, j'avais complètement changé de rapport à mon vécu. C'est-à-dire que j'allais vivre pleinement jusqu'à cette mort, ce qui m'a certainement poussé à survivre, à vivre trop, à vouloir vivre trop de vie dans une vie, tu vois.
Et t'étais dans quel état ce matin-là, là ?
Parce que je venais de passer une nuit où j'avais intentionnellement envie de me donner la mort, et que je me suis dit non, c'est, je peux pas faire ça à ceux qui restent. À ma famille, à mes amis, à ma famille particulièrement, à ma sœur et à mon père. Et que du coup, donc j'étais dans un état de perception modifié. Et pourtant, c'était Et je l'ai dit à Noémie, c'était mon amie d'enfance. Je l'ai dit à Noémie, je crois que c'est fini, j'ai plus envie de mourir, tout de suite. Et voilà. Et comment je me sentais, c'était très très flou et c'était. C'est parce que j'étais dans un état d'une nuit extrêmement perturbée et peut-être que je me sentais sautillante, tu vois, à l'intérieur de moi. Comme si mes cellules s'étaient mises en ébullition et qu'il y avait un autre monde qui s'ouvrait. Je crois que j'ai jamais ressenti une transformation aussi rapide et soudaine et surprenante. On parle de vrai déclic là.
Ouais.
Entre vie et mort, tu vois, un truc de. Allez.
On pioche un autre. Sablier. Je pensais que j'avais mélangé.
Eh bien non.
Pas du tout.
Sablier. Alors sablier, pour moi, c'est. Alors c'est lié à une expérience vécue depuis que j'ai commencé le buto. Et c'est une expérience très 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 forte à l'intérieur de moi. Et cette expérience, elle me transforme à chaque fois que je la vis. Et je crois que j'ai envie de la vivre plusieurs fois. Alors l'expérience du sablier, c'est qu'on a un temps plutôt long, on va dire une dizaine de minutes ou même plus, pour que on imagine que notre corps est un sablier et que grain par grain.
J'ai entendu que notre corps est un sablier.
Que notre corps est un sablier. que notre corps est un sablier et que grain par grain, on s'effrite et que ça se dépose au sol.
Oh, wow.
Et du coup, donc on est debout et petit à petit tout s'affaisse. Et ça, ça s'affaisse pas uniquement juste c'est en train de mourir. C'est-à-dire que la trace et le fait de... En même temps que le sable coule en soi, donc ça finit par s'affaisser au sol, on a une autre puissance qui est l'humain ou l'être reste en présence.
Ah, wow.
Jusqu'à la fin. Et donc, souvent en buto, il y a cette histoire d'opposition qui crée l'antre et qui empêche le binarisme simple. C'est-à-dire que dans un endroit plutôt occidental, on mourrait, donc du coup, petit à petit, hop, on mourrait. Non, là, il y a la présence qui est toujours là jusqu'à la fin. Et il y a quelque chose de très, très, très fort. C'est comme si on faisait l'expérience d'une vie où on accepte la mort. C'est-à-dire qu'elle est là, ça coule, le temps s'écoule. Mais il y a plein de petites morts. Et en même temps, je suis là jusqu'au dernier instant. Et pour l'expérience, je suis encore là après l'expérience. Et là, il y a... Alors, à regarder, c'est très très fort parce que du coup, tu vois la personne. Et en fait, la trace de la présence reste toujours comme si elle était encore un petit peu plus en dessus de ce qui vient de se passer, tu vois.
Voilà.
Et le corps, il s'effrite, mais c'est vraiment grain par grain. Je crois que la dernière fois que je l'ai faite, c'était 5 minutes, mais la première fois, je crois que c'était un quart d'heure. Et c'est un quart d'heure d'expérience et d'acceptation de ce cycle de vie qui est dans la vie, il y a de la mort et on laisse et la présence reste là. jusqu'au dernier moment. Et voilà ce que ça me raconte, Sablier. Ce rapport au temps et en acceptant que la vie est présente dans la mort et que ce cycle se crée et que le sable, c'est encore une autre forme de vie. Etc, etc. C'est pas uniquement le néant. Ça se dépose quelque part et ça sera une nouvelle matière en devenir. Tu vois? J'adore expérimenter cette puissance là. Voilà ce que ça me raconte, Sablier.
Trop bien. Moi, ça me raconte une image que j'ai vue il y a quelques jours à Cosmocité, où on voit. C'était la photo, une photo avec deux cercles, un cercle. De cercle en miroir, quoi, comme un sablier, mais rond, dont chaque côté est rond, et avec une. Quelque chose entre les deux. Et donc, c'était des devinettes. Qu'est-ce que c'est que ce sablier? Et en fait, c'était une photo de notre galaxie. Et en fait, les sabliers, ce serait, semblait-il, des traces de la naissance de notre galaxie. Et des traces gazeuses. En tout cas, bah, c'était la trace de la naissance de notre galaxie, la trace gazeuse de la naissance de notre galaxie.
C'était horizontal ou vertical ?
Vertical. C'était Soap and Skin, le morceau s'appelle Thanatos. Merci beaucoup à Jou pour ces moments.
Et ben maintenant, je vais m'adresser à la mort pour régler un peu des comptes, passer un petit coup de gueule contre les angoisses qu'elle nous sert.
Salut la mort, je te demande pas comment ça va. Bon, je profite de cette occasion pour m'adresser à toi. J'ai une chose importante à te dire. Laisse-moi tranquille. Je sais qu'un jour tu seras là pour moi ou pour mes proches. J'ai pas de problème avec ça. Enfin, bon, passons. Ce qui me pose problème actuellement, c'est que tu viennes tout le temps me suggérer que tu pourrais venir. J'en ai marre. Laisse-moi vivre. Est-ce que tu crois pas que j'ai déjà une charge mentale suffisamment chargée? Est-ce que je pourrais pas vivre mes petites expériences sans ta présence au dernier plan? Et est-ce qu'il n'y a pas suffisamment de connards sur cette planète pour t'occuper? Parce que si t'as pas d'idée, nous, avec les Noctules, t'inquiète, on te prépare une liste. Allez, ciao. Va donc voir ailleurs. C'est clair?
Voilà, voilà. Bon, bah si vous avez des idées de personnes à embêter, que la peur de la mort pourrait leur faire changer un peu de plan et devenir meilleur, par exemple, bah voilà.
Grave, ouais. Quoi. Genre, Elon Musk.
Voilà, Trump, par exemple.
Mais oui, va les harceler, allez, là.
Netanyahou. Enfin, tous les gens qui font du mal aux autres, finalement, et voilà. Qui causent des morts.
Et peut-être qu'ils pourraient se dire, oulala, mais moi aussi, je vais mourir. Il faudrait que, vite, je change d'idée et que ouais. Je fasse des trucs mieux.
Voilà. Alors, on est bien d'accord, on souhaite pas leur mort. On souhaite juste qu'ils soient un peu tracassés autant
voilà,
que nous, quoi.
Voilà. Et puis qu'ils se disent, voilà, qu'ils ah, font que...
On ne fait bon, pas bref. D'appel à la mort au micro de Radio Royan.
Non, non, juste à être un peu agacé. Bon, et puis maintenant, et ben du coup, on va parler avec les morts. Enfin, plutôt, on va écouter une interview d'Elim qui communique avec les défunts. Mais d'abord, mes petites excuses pour la qualité de l'enregistrement, parce que c'est ma première interview, et je crois, et que on était dehors, et que voilà, j'ai pas tout bien tenu le micro. Et puis, pour commencer l'entretien avec Elim, pour être sincère avec Elim, je lui ai parlé de mes doutes, du fait que j'étais pas vraiment capable de dire si j'y croyais ou pas. Et puis, après, en discutant et tout ça, je me suis dit que finalement, c'était pas vraiment l'important. De savoir si on y croit ou pas, mais que c'était plutôt la démarche de soins envers les vivants et aussi la considération de celles et ceux qui étaient avant nous qui me semble importante dans sa démarche à lui et dans cet entretien. Voilà.
Moi, ce rapport au subtil a pris beaucoup de place dans ma vie. Ça n'a jamais été aussi présent de me rendre compte à quel point... On savait rien. Subtil, je mettrais derrière tout ce qui n'est pas forcément visible au premier plan. Ça peut être les rêves, tu vois. Par exemple, ça fait partie du subtil pour moi. C'est un vecteur, les rêves, pour le subtil, qui est assez impressionnant.
Tu dirais que tu communiques avec ça, avec le subtil ou avec...
Il y a une forme de communication. Déjà, la première chose que je voudrais dire par rapport à ça, qui est important pour moi de soulever, c'est que c'est pas parce qu'on n'en a pas conscience qu'on ne le fait pas. Je pense que absolument tout être vivant communique avec des énergies qu'on ne voit pas forcément. Et peut-être qu'on n'en a pas conscience à plein de moments, mais et peut-être qu'on a du mal à recevoir, qu'on peut nous parler, même juste avec des mots, en verbalisant les choses, ou pas, parce que la communication elle peut vraiment passer par plein de formes différentes. Mais je pense que c'est pas réservé à une élite, quoi. Après, d'en avoir conscience, de le faire réceptif au retour, ça, c'est peut-être autre chose. Ou, effectivement, il y a des moments ou des périodes ou des personnes qui vont être peut-être plus réceptifs et OK et prêtes à recevoir ça et à s'ouvrir à ce monde-là. Mais en tout cas, le fait de nous pouvoir envoyer vers le subtil, c'est universel. Pour moi, dans mes croyances, en tout cas,
okay.
C'est pas du tout quelque chose de réservé. Absolument tout le monde peut envoyer une énergie, une phrase, quelque chose de subtil.
Ouais, dans un sens, et du coup, tu dis c'est d'envoyer, tu penses que c'est accessible à tout le monde, mais que c'est de recevoir ou d'être conscient que tu as envoyé et que tu as reçu.
Ouais, c'est ça. En fait, je pense que déjà, il y a plein de gens qui le font sans le savoir, mais si tu le fais en te disant un truc bête, mais. Par exemple, toi, tu me parles un truc bête. Je vais prendre l'exemple que tu me disais tout à l'heure.
Ouais.
Par rapport à ta grand-mère, où tu disais, ah bah, je ressens une émotion dès que j'en parle. Bon, bah, il y a 10 000 façons de traduire ça, tu vois.
Ouais.
Mais, par exemple, est-ce que toi, tu as l'impression que tu peux envoyer des messages à ta grand-mère ou pas?
Non.
Non.
Enfin, en fait, je me suis jamais posé la question. Mais comme ça, je te dirais non.
Ouais, ok. J'entends. Eh ben, moi, par exemple, dans mes croyances, je ne crois pas que c'est réservé que certaines personnes puissent le faire, en fait.
Mais cela dit, je l'ai déjà fait, par contre. M'adresser à elle, en fait.
Okay.
Mais après, peut-être avec justement une idée, une construction rationnelle qui fait que je me suis dit que ça me faisait du bien, mais que c'était pas réellement de la communication, tu vois.
Oui, c'est... Là, on parle de ce sujet-là, mais c'est des choses qu'on peut faire avec plein de sujets différents, tu vois, de faire des choses sans vraiment trop y croire, quoi. Ouais. Ou en tout cas... Et peut-être que ça nous fait juste du bien à nous sur le coup, tu vois, peu importe. Peu importe. Moi, c'est vrai que c'est pas mes croyances, parce que, ça fait entièrement partie de ma vie aujourd'hui, et... Il y a tellement de choses à dire par rapport à ça, que par rapport au fait d'être coupé de toute cette partie subtile, en fait, tu vois, d'être vraiment que sur le matériel, que sur... Moi, je trouve que c'est triste parce que, par exemple, pour moi, l'espoir, c'est quelque chose qui fait partie du subtil. Y croire, toutes ces émotions, tu vois, qui... L'étoile, quoi, l'étoile qui guide, quoi, un peu ce truc, pour moi, c'est vraiment un rapport au subtil et c'est quelque chose qui... Alors, je sais que pour certaines personnes, ça peut être l'angoisse, mais moi, par exemple, c'est si j'avais pas ça, mais qu'est-ce que ça serait triste, tu vois ? Je trouve. Après, c'est mon point de vue aujourd'hui, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui vivent pas forcément avec ce rapport au subtil et qui trouvent pas leur vie triste.
Ouais.
Pas du tout, tu vois. Les personnes qui se disent « Ah, j'aimerais bien pouvoir faire passer tel message à telle personne ou quoi », ben... C'est pas en allant voir quelqu'un d'autre que le message il va mieux passer. Je pense que le message il passe mieux quand il vient directement du cœur de la personne concernée.
Ouais. Et du coup, ça m'amène une question. Toi, du coup, quand tu communiques, du coup, concrètement, comment ça se passe ?
Moi, tout a commencé dans mes rêves. Du coup, au début, je mettais pas ça sur le fait que je communiquais ou qu'il se passait des choses. Je me disais juste que j'avais des rêves un peu ouf. Et qui avait une texture vraiment très particulière, à me réveiller dans des états émotionnels complètement hallucinants, à mettre des jours ou des semaines à me remettre d'une communication ou quoi. Et c'est 15 ans plus tard à peu près que j'ai fait ça, mais pas dans mes rêves. Alors c'est différent à chaque fois, mais souvent ça va être... Alors oui, il y a les rêves, même après, qui sont venus, qui sont revenus. Et puis, il y a... Je me rappelle d'une fois où j'ai été un peu comme un peu perché, quoi. Hein, comme un peu, tu vois, sur mon canapé, là, et à être un peu fatigué, un peu cette impression de... lointain, quoi. Je sais pas comment dire. C'est une sensation d'être sûr de quelque chose, quoi. Je suis sûr que là, il y a une personne, c'est un tel... il veut ça, ou elle veut ça, elle s'appelle comme ça, tu vois, c'est pas genre j'ai une voix qui arrive et qui me parle dans mes oreilles. Il y a des gens, ça va être ça, mais moi, pas du tout. C'est vraiment une certitude que d'un coup, pouf, il y a ça, et puis petit à petit, il y a des sensations qui peuvent arriver dans le corps, et des fois pas du tout. Et au début, c'était ça. Après la période de rêve, ça a été vraiment comme ça. Genre une certitude où là, tu sais qu'il y a quelqu'un qui est là, qui veut ci, qui veut ça, qui a ça à dire, qui a...
Ok. Et du coup, c'est pas... Ma deuxième question, c'était ça. C'est pas forcément, entre guillemets, t'es mort.
Ou... Alors, ça a commencé avec des proches à moi, oui. Au tout début, c'était mes animaux de compagnie, par exemple.
Ouais.
Ça a été des gens que je connaissais de ma famille qui venaient me voir. Et puis après, quand je me suis ouvert à ça, quand je me suis dit ok, il y a vraiment du monde qui vient me voir là, et puis aussi parce que j'ai été accompagnée, ça a été super. À partir du moment où je me suis fait accompagner par une personne dont c'est le métier, vraiment, là il y a tout qui s'est. T'as plus l'impression d'être fou, quoi, parce que ce que tu ressens c'est validé par une autre personne, tu vois. C'est comme si on te donne deux exercices, on donne rien et on dit alors. Faut que tu me trouves le prénom, qu'est-ce qui s'est passé et tout. Et puis que à la fin, vous trouvez vos deux copies et que c'est similaire. T'es là, ah, là, on n'est pas fou, quoi. Et ben ça fait du bien. Et à partir du moment où je me suis fait accompagner, ça faisait déjà longtemps qu'on m'avait dit, t'es médium, t'as des choses comme ça. Moi, j'étais là, j'ai eu une période où je disais, laisse tomber, c'est pas pour moi, ces trucs-là. Et puis, en fait, c'est une personne qui m'a appris à faire passer, tout simplement. Et à partir de là, c'est parti, quoi. C'est parti tout seul, c'est venu, les gens venaient à moi directement. J'ai eu des gens qui me disaient, il y a un tel qui aurait une question par rapport à une personne. Et,
du coup, c'était des morts ou des vivants ?
Des vivants qui venaient me voir pour avoir des questions par rapport à... Mais j'ai eu aussi les deux. Hein. Ouais, j'ai eu les deux.
Quand les gens te posent des questions, et ben du coup tu te mets dans une séance entre guillemets de...
Ouais, faut rentrer à l'intérieur de soi, faut se mettre un peu en mode quoi quand même. Enfin moi j'ai besoin de ça en tout cas. Au début j'avais encore plus besoin de ça. Et puis après il y a soit je passe directement par la personne vivante qui a besoin parce que la personne dont elle est proche qui est décédée. Et avec elle, du coup, c'est facile pour moi de passer par la personne vivante. Soit directement par la personne décédée. À partir d'une photo, c'est aussi possible de se connecter comme ça. Et toujours, c'est mon canal à moi. Il faut savoir qu'il y a autant de médiumité que de médiums. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une façon de faire. Mm-hmm. Il y en a autant que de personnes qui vont se connecter. Moi, par exemple, au début, je ne le faisais pas, mais maintenant, j'utilise vachement l'écriture intuitive. Du coup, je me connecte, pouf, ferme les yeux, je suis dedans, et puis j'ai le papier, le crayon, et puis hop, une fois que j'ai ouvert les yeux, tout le message qui est écrit. Il y a l'hypnose aussi. J'ai découvert ça il n'y a pas si longtemps. Ça, pour moi, c'est super, parce que du coup, je le pratique maintenant.
Sur d'autres gens ou sur toi-même ?
Ouais, sur d'autres gens. Je fais de l'hypnose... qui permet à des personnes d'aller communiquer directement eux-mêmes avec leurs défunts. C'est-à-dire que là, je ne fais pas d'intermédiaire. C'est de les emmener, de faire une induction, les emmener dans un état hypnotique assez profond pour pouvoir qu'ils communiquent directement eux-mêmes avec les personnes avec qui elles ont besoin de communiquer. Et moi, je trouve que cette approche, elle est super parce que on n'est jamais mieux soigné que par soi-même, j'ai envie de dire. Du coup, ben, je trouve que c'est génial parce que là, moi, j'ai rien à faire. Il n'y a même pas à dire j'y crois ou j'y crois pas de ce que tu m'as dit, puisque là, moi, je ne suis pas du tout dans le processus, à part pour l'induction, hop, une fois que tu y es, ok, qu'est-ce que tu vois, à qui tu parles, voilà, et c'est parti, puis je te laisse faire ton truc, parce que moi, je suis juste là pour la sécurité, et puis les emmener, les ramener bien comme il faut, mais c'est tout, quoi. Et moi, je trouve ça super, j'ai toujours trouvé ça super, sûrement parce que j'ai aussi, dans mon parcours, eu du mal à m'outer, comme je te disais tout à l'heure. C'était quelque chose pour moi qui était... Enfin, je me rappelle quand je suis repartie de chez la pote qu'elle m'a appris à faire ce qu'on appelle faire passer les défunts. Ben, j'étais là, merde, qu'est-ce que je vais dire aux gens, tu vois ? J'étais là, merde. Vraiment, il y avait un endroit de moi où je me sentais un peu mal à l'aise, quoi, tu vois ? Et du coup, d'avoir trouvé cette technique, de me dire, mais en fait, moi, j'ai personne à convaincre. Là, je suis là pour personne. Et puis vraiment, ça ne m'intéresse pas. Maintenant, s'il y a des gens qui ont besoin de connaître des réponses, qui ont des discussions à avoir avec des personnes, ça leur tient à cœur, et que, je sais pas confiance en une tierce personne, ou c'est le mieux, c'est quand même que j'ai moi-même la discussion avec la personne, bah, on peut tenter une hypnose. Et puis, si la personne, elle a envie, elle trouve que c'est le moment où ça match et tout, bah, c'est super. Et ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, du coup, d'emmener des gens en hypnose et puis bah, qui communiquent directement avec leurs défunts. Et moi, je trouve que c'est magnifique. Ces séances-là, en général, les gens, ils sont... Bah, ça marque, quoi. Et puis, bah, ça fait qu'on se sent pas seul, on se sent accompagné.
À ton avis, est-ce qu'il y a que des gens qui n'auraient pas réglé des trucs qui communiquent, ou est-ce qu'il peut y avoir aussi des gens qui ont besoin de communiquer juste pour plaisir, entre guillemets, quoi, enfin...
Ouais. Ouais, il y a des gens qui sont attachés à un lieu, qui ont envie d'être gardien-gardienne du lieu, entre guillemets, parce que gardien-gardienne, mais en tout cas, qui ont envie de continuer un peu un rôle. Il y a des gens qui ont envie de rester pour leurs proches un petit peu auprès d'eux, parce que, voilà, ils ont envie de les accompagner dans telle ou telle mission, que ça leur va de continuer encore un petit peu, le temps qu'il y a besoin. Il y a des personnes qui ont besoin réellement d'être entendues. Oui, il y a des personnes qui ont besoin d'un soin. Parce que ça va pas, parce que ils sont morts dans une certaine énergie au moment de la mort, où il y a des gens aussi qui savent pas qu'ils sont morts. Moi j'ai déjà vu ça, hein, sur des morts soudaines, où le plan il fait qu'ils passent sur un plan où ils savent pas vraiment, et c'est la panique. J'ai déjà vu des personnes en panique, quoi, qu'il a fallu rassurer. Non, il y a vraiment de tout. Enfin, moi, dans ce que j'en ai vu, non, il n'y a pas que des gens qui ont besoin de régler des choses, pas du tout.
Sous feuillasse désarbré, de son tronc sont détachés, sous beau frémisqueur vibrant, contre un ostone menaçant, peau à peau réconcollée, amour ami amassé. Ô tatou se réchauffer,
mort apprivoisée. En sans mort apprivoisée.
Alors voilà, on a parlé de plein d'autres choses que j'ai dû couper par manque de temps, comme par exemple de son rôle dans sa famille de dénoueur de problèmes grâce à son dialogue avec les défunts, ou encore le lien entre expérience de mort imminente et dissociation traumatique. C'était super intéressant. Et puis après, Elim est rentré chez lui et il a croisé un défunt qui avait un mot pour nous. Ce défunt nous dit, en tant que mort, au nom d'un mort, il veut parler en son nom, au nom d'un mort. On ne connaît pas son nom. L'amour est subtil. Croire en l'amour, sa force est infinie. Ce qui veut dire qu'elle n'a pas de fin. On ne peut pas arrêter d'aimer quelqu'un après la mort, ce qui est barré, ou alors après la vie. Si on s'aime avant, on s'aime encore. C'est dur de voir nos proches en douter. L'amour est plus fort que tout, plus fort que le corps physique. Si j'aime un proche, je veux être là pour lui, elle. Il n'y a rien de mal à ça. Si l'invisible vous gêne, regardez ce que l'amour peut concrétiser. Ce dont il est capable, c'est très concret. J'aime l'humain. Aimez vos morts. Ils ne cesseront jamais de vous aimer. Voilà. Il y avait aussi toute l'explication de comment il est rentré en contact et tout ça. Je pense que c'est un peu long pour tout raconter, mais voilà.
En tout cas, c'est un message qu'il y avait pour nous.
Voilà, pour la radio.
Pour la radio. Donc pour tous les auditeurs et auditrices qui nous écoutent.
C'est ça.
Un message d'amour.
Un message d'amour. Jusqu'à l'au-delà.
Depuis.
Depuis l'au-delà jusqu'à... Oui, d'amour, oui, voilà.
Ah vraiment, oui.
Ah, réversible. T'as compris?
Oui, j'ai compris. C'est la fin de l'émission. On espère que vous allez vous régaler des petites fleurs qui sortent pendant le mois de mars. On a un super coup de cœur qu'on vous conseille chaudement d'écouter sur les ondes de Radio Royan si vous tombez dessus, mais aussi sur la plateforme de Radio Rageuse. C'est l'émission de Dégenré qui s'appelle « Au bonheur des morts ». Qui est vraiment super.
Et qui date de 2018. Ça nous permet de faire un coucou aux camarades de Dégenré.
Coucou.
Aussi, on va vous mettre des ressources sur notre plage, des ressources qui nous ont plu. Par exemple, Féministe jusqu'à la mort 2, le podcast à soi de Charlotte Bien-Aimée, qui est allé en octobre dernier aux rencontres de la Samène. C'est des rencontres pour réenchanter la mort, dédiées à la transmission d'infos, au partage de vécu et d'imaginaire, des réflexions individuelles et collectives autour de la mort par une expérience intime, politique et sensible. Et puis, il y aura aussi le lien « Que nous veulent les fantômes des idées larges », que je vous conseille aussi d'écouter.
Et juste, j'ai pas dit un petit mot par rapport au petit chant qui est à la fin de l'interview. Du coup, je le replace là. Du coup, c'était une petite chanson qui m'a été transmise oralement par des amis et qu'on a chanté à l'enterrement de Dom, une amie, et qu'on a fait un enterrement, dans lequel on a fait un détournement de cercueil pour le mener nous-mêmes à pied jusque dans sa tombe, à la place des pompes funèbres. Voilà.
Une manière de se réapproprier aussi ce moment pour vous.
C'est ça.
Et c'est possible.
Ouais, il y a plein de gens qui réfléchissent à des coopératives funéraires. On aurait voulu en parler aussi, mais voilà, ça fait partie des choses où on n'a qu'une heure et demie. Il y a aussi des gens qui réfléchissent à comment l'éducation populaire peut se saisir de ces rituels de mort, comment on peut se réapproprier tout ça et pas tout laisser aux pompes funèbres, effectivement, nous déposséder de tout ça. Et pendant le printemps qui arrive, là, dans le Royan, notamment à Saint-Jean-Royan, mais aussi ce sera en partenariat avec un centre social à Romans, il va y avoir le printemps mortel, donc c'est du 21 avril au 21 juin, deux mois autour de la mort avec des cafés mortels dont parlait Jojo dans l'intro. Il y aura aussi des projections de films, il y aura aussi des spectacles. Nous, avec Radio Royan, on va faire un plateau mortel pour se questionner sur comment la mort peut être une matière artistique, donc avec des artistes du coin qui travaillent là-dessus. Et puis, sur les ondes de Radio Royan, il y aura aussi des interviews spéciales, des émissions. On va bousculer un peu la grille pour faire de la place à la mort sur nos ondes. Et si vous tapez, ouais, justement, la mort sur Radio Rageuse, il y a plein d'émissions super chouettes. Et je vous en parle d'une aussi sur Radio BLV, des camarades de Bourg-les-Valence, avec l'association Thanatosphère. Il y a une émission qui s'appelle « On ne mourra pas d'en parler ». Et cette association Thanatosphère organise aussi des cafés mortels régulièrement. Et c'est aussi cet asso qui va être impliqué dans le printemps mortel. Voilà.
Merci à toutes les personnes qui nous ont accompagnées et qui ont participé à cette émission.
Oui.
Merci beaucoup.
Et ben on peut les citer. Moi, j'ai envie de remercier ma sœur Talia, et puis j'aimerais aussi remercier Nathalie Zajde, qui est psychologue au centre d'Evreux à Paris, et plus particulièrement qui fait partie de la cellule psychologique pour les survivants et descendants de survivants des victimes de la Shoah. Et voilà, qui parlait du D-Book notamment, dont je vous ai parlé dans une petite intro.
Ben moi, je remercie Elim et puis aussi les choristes Philou et Katrina.
Merci Joe et merci aussi Kevin pour la première écoute de la balade Buzy.
Ben on referme cette émission. Merci à Gaël et à Luce qui étaient bien là avec nous dans le studio. Merci à Jojo, à qui on pense.
Ben bien sûr, bonnes vacances.
Et puis ben au mois prochain dans les Noctules.
Ouais.
Salut.
Prenez soin de vos mortes.